Quand l'île-dieu mettait la mer en bois.
Quand l'île-dieu mettait la mer en boîte.
Quand l'île-dieu mettait la mer en boîte.
Épisode 7, le poisson n'attend pas. Dans l'épisode précédent, on a compris que la logique industrielle ne tolère pas de failles, ni d'être mise à l'arrêt, même temporaire, là où la pêche est artisanale et par nature aléatoire. C'est une question d'ajustement des deux réalités.
Pour rentabiliser leur activité, les industriels actionnent tous les leviers à leur disposition. C'est assez logique.
Dans de nombreux sites, afin de s'assurer des apports réguliers, les usines proposent aux marins un système de bateaux abonnés, c'est-à-dire affiliés à une seule usine. Par convention, orale, les industriels promettent à leurs marins l'achat de l'intégralité de leur pêche, mais ils n'en garantissent pas le cours d'achat.
L'implantation multiple d'ateliers de conservation sur tout le littoral permet aux usines de mettre en concurrence les points de vente et de négocier le prix d'achat du poisson. Ils réalisent ainsi des économies considérables en restreignant leurs achats sur les lieux où les cours sont élevés, en les augmentant dans les endroits où la pêche plus abondante autorise des prix plus favorables.
Ce faisant, ils font peser sur les marins, dont ils ont pourtant besoin pour assurer l'approvisionnement de leurs usines, les risques liés à l'extrême irrégularité des apports. À terre, c'est une fragilité similaire qui découle des pratiques. Les ouvrières ne sont pas embauchées pour toute la saison. Elles sont recrutées à la semaine et payées à l'heure, selon les besoins de l'usine. Et tout quart d'heure de retard est décompté.
Ainsi, pas de poisson, pas de travail pour les usinières et pas de salaire à verser pour l'employeur. De plus, les salaires pratiqués ne sont pas uniformes. Ils diffèrent selon les points de recrutement et l'évolution de la conjoncture économique. La paix des ouvrières devient alors une autre variable d'ajustement si la campagne de pêche est jugée insatisfaisante pour l'industriel.
Ce que tu décris est un système d'exploitation des conserveries qui repose sur une véritable mise en coupe réglée de toute la population maritime.
Quand il n'y a pas assez de poissons, les cours sont bons, mais dans les usines, toutes les femmes ne trouvent pas à s'embaucher puisque les usines n'embauchent pleinement que lorsque le poisson donne. Mais si la pêche est trop bonne et que les usines n'arrivent pas à absorber toute la production, ce sont les cours du poisson qui chutent et les marins sont mal payés.
Lorsque la sardine abonde dans les usines, les journées de travail s'allongent car le poisson n'attend pas. La pêche doit être traitée dans son intégralité avant d'être corrompue. Les usinières travaillent tard, parfois même la nuit. Et elles le font de bonne grâce car cette pêche, c'est souvent celle de leur mari. La marge de manœuvre n'est pas large pour les populations maritimes, qui supportent de fait une grande partie des risques, sans pouvoir faire valoir leurs droits, car ils sont liés dans une communauté d'intérêts entre pêche, prix du poisson et les pratiques des conserveries.
Dans de nombreux ports, la sardine fait vivre des familles entières, maris pêcheurs, femmes usinières, fils mousse et filles à l'usine. Cet état de fait rend ces familles extrêmement vulnérables. Quand le poisson vient à manquer, c'est pas joyeux. Ceci est encore plus vrai à l'île-dieu où le vivier de main-d'œuvre est parfaitement captif. Pour les ouvrières, il est impossible d'aller chercher un travail salarié ailleurs que sur l'île.
Et personne ne dit rien. Cette interdépendance doit pouvoir trouver un équilibre quand même.
La situation géographique particulière de l'île explique sans doute l'absence de graves conflits sociaux, comme il a pu en être observé au Sable d'Olonne et surtout en Bretagne, où ils eurent parfois un grand retentissement, comme à Douarnenez en 1924, la grève des peines sardines. Cela ne signifie nullement qu'il n'y ait jamais eu à l'île-dieu de revendications concernant le salaire proposé aux femmes ou le prix de vente du poisson.
Dès 1889, les ouvrières des trois usines sont en grève. Elles protestent contre la baisse de leur taux horaire. Les marins aussi dénonceront régulièrement le fait que, bien qu'ils soient fortement incités à vendre leur pêche sur l'île, les conserveries insulaires achètent leurs poissons moins cher que dans leurs succursales établies dans des ports continentaux où la concurrence entre industriels est plus rude.
La consultation d'un courrier de 1916 établit qu'ils sont même parfois soutenus par l'administrateur des affaires maritimes, témoin sans doute de quelques abus. Mais quand le bras de fer est engagé, à chaque fois, il est trop inégal. À l'île-dieu, comme dans la plupart des communes littorales, les autorités en place soutiennent cette industrie importante pour l'économie locale. En scrutant la documentation disponible, on ne peut que constater une certaine connivence entre les usiniers et les décideurs locaux.
Dans la pratique de leur industrie, les conserveurs doivent s'acquitter de formalités. Des lois existent, des contrôles aussi. Mais la loi a du mal à être appliquée sur le terrain. il y a trop d'enjeux économiques pour le territoire. Les revendications, quand elles s'expriment, restent le plus souvent lettres mortes, car elles ne sont pas relayées par les instances locales, qui sont en général des notables insulaires. Et lorsque les conserveurs n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent, ils font jouer leurs relations et leurs réseaux d'influence pour obtenir des tolérances, que dans les différents ministères on leur refuse rarement. La bourgeoisie est, en cette fin de 19e siècle, triomphante. Et sur l'île, les conserveurs en situation de monopole sont tout puissants.
On peut prendre en exemple le travail des enfants. Les régulations se mettent en place, mais leur application tarde à suivre. Cet encadrement législatif est considéré comme presque, on pourrait dire, intrusif.
Oui, ça y ressemble. La première loi française réglementant le travail des enfants dans l'industrie est la loi du 22 mars 1841. Elle interdit le travail des enfants de moins de 8 ans et fixe pour les autres une durée maximale de travail quotidien. Elle interdit également le travail de nuit pour les moins de 13 ans. 10 ans plus tard, un nouveau texte limite la durée du travail journalier des mineurs à 10 heures au-dessous de 14 ans et à 12 heures entre 14 et 16 ans.
Ces lois sociales rencontrent immédiatement des résistances de la part des industriels qui estiment qu'interdire le travail des enfants revient à sacrifier l'industrie qui, pour se mouvoir, a besoin de liberté. Mais il y a aussi des résistances au sein des familles ouvrières, pour qui le salaire de l'enfant, même s'il est sous-payé, constitue un salaire d'appoint nécessaire à la survie de leur famille.
Donc les lois se heurtent à des difficultés d'application. Et quand, par exemple, le contrôle dans les entreprises est confié à des notables locaux bénévoles, ils sont souvent plus que réticents à jouer les inspecteurs auprès d'industriels qui font partie de leur classe sociale, voire de leurs amis. D'ailleurs, le sujet est national, pas qu'insulaire.
Alors, pour assurer un vrai contrôle de l'application de la loi, en décembre 1868, l'État dote les services publics d'un corps d'inspecteurs salariés chargés de veiller à la sécurité et à la santé des enfants au travail. Sur le terrain, ceux-ci se trouvent souvent confrontés à la collusion entre pouvoirs locaux et employeurs.
Il faut attendre la loi du 19 mai 1874 pour que l'État français prenne de véritables dispositions réglementant le travail des mineurs dans le monde industriel. La question de la scolarisation des enfants va aussi enfin contribuer à faire évoluer celle du travail des mineurs. La gratuité de l'école primaire publique est votée en juin 1881 et en mars 1882, la deuxième loi Jules Ferry rend l'enseignement primaire obligatoire.
En établissant une obligation d'instruction primaire jusqu'à 12 ou 13 ans, âge du certificat d'études, cette loi vient renforcer la loi de 1874 interdisant l'admission dans l'industrie d'enfants de moins de 12 ans. Si, suite à cette obligation, au niveau national, l'illettrisme diminue dans les usines, les inspecteurs relèvent quelques îlots de résistance, en particulier dans l'extrême ouest de la France, spécialement dans les usines de conserve de poissons.
Arguant de la liberté du commerce et de l'industrie, et de la puissance paternelle, les industriels se montrent encore récalcitrants. À l'été 1887, le registre d'une des usines de l'Île-Dieu déclare employer 13 jeunes filles, d'une moyenne d'âge de 12 ans. Les certificats ou attestations nécessaires à leur embauche, établis par les instituteurs des écoles du port et du bourg, nous apprennent que 6 d'entre elles seulement, ayant entre 12 et 14 ans, justifie d'un certificat d'instruction élémentaire.
Les 7 autres, en majorité plus jeunes, ont simplement fréquenté l'école sur une période plus ou moins longue au cours de l'année scolaire 1886-1887. Pour l'une d'entre elles, 15 jours d'école seulement sur l'année. Et la plus jeune d'entre elles a 9 ans. En novembre 1892, une nouvelle loi est votée. Cette fois, elle est mieux mise en forme et plus difficile à contourner.
Le maire et le juge de paix président de la commission locale du travail des enfants dans l'industrie à l'Île-Dieu sont régulièrement sollicités par le préfet de la Vendée pour prêter leur concours à l'administration afin d'assurer l'application de la loi et des règlements qui la complètent.
Au vu du nombre de relances, les rapports semblent tarder à arriver en préfecture.
De leur côté, les conserveurs, toujours réfractaires à la loi, ne ménagent pas leurs efforts et jouent de leur influence pour assouplir la réglementation.
En juin 1897, sans doute mis sous pression par les conserveurs, le maire de l'Île-Dieu intercède auprès du préfet afin que celui-ci essaie d'infléchir la mise en application de la loi par l'inspecteur divisionnaire. Il lui fait part des ennuis qu'il éprouve par suite de l'application à l'île-Dieu de la loi du 2 novembre 1892 qui interdit le travail des enfants au-dessous de 13 ans dans les établissements industriels. Le préfet accuse réception de cette demande et s'engage à soumettre la situation à l'inspecteur divisionnaire.
Le 16 juin 1897, la réponse de ce dernier est quelque peu cinglante. Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il n'est pas en mon pouvoir d'autoriser ou même de tolérer la violation des lois que je suis chargé de faire appliquer. L'année dernière, j'ai rencontré dans les 3 usines de conserve de poissons de l'île-Dieu 14 enfants qui se trouvaient dans ces conditions.
Le 18 juin 1897, un courrier estampillé confidentiel, émanant du chef de cabinet du préfet, prévient le maire de l'île-Dieu de la venue sur l'île de l'inspecteur du travail dans l'industrie.
Et bim !
De nouvelles mesures efficaces concernant la protection des enfants au travail seront promulguées à partir de 1905 et la loi du 7 décembre 1926 interdira l'affectation des enfants aux travaux dangereux et insalubres. Ces lois rencontreront les mêmes difficultés d'application.
Et pour l'anecdote, il se dit que dans l'entre-deux-guerres, quand un contrôle était annoncé, il était encore de coutume d'envoyer les enfants employés à l'usine sur la petite plage, près de la place du Pu, sous la surveillance d'une jeune ouvrière. Il se dit aussi que certains bateaux de liaison régulière, transportant un inspecteur vers l'île-Dieu, sonnaient d'un son adapté à son arrivée au port, juste le temps pour les plus jeunes de rejoindre la plage.
On se retrouve pour la suite au prochain épisode.
Avec les contributions de
recherche, documentation, texte, Pascal Cariou,
voix, Sylvie Monlahuc
et Clément Bertrand.
Adaptation, réalisation, Maya Tubiana-Perro.
Musique, Clément Bertrand.
Design sonore et mixage, Philippe Turbet.
Moyens techniques, Neptune FM. Une production rendue possible par les services culturels et patrimoine de la municipalité de l'Île-Dieu. Produit par Aerials. Réalisé 100% à l'Île-Dieu.